France Inter.
France Inter, Marion Lourd, le 5-6.
Bonjour à toutes et à tous. Au programme ce matin, des méduses de 2 mètres et les immenses bouches des sardines. Un océanographe nous raconte l'impressionnante vie sous-marine dans les chroniques littorales. Des flocons de neige, ma chronique d'où ça sort nous explique ce qu'est la génération Z, génération réputée fragile. 3 ans de guerre en Ukraine, le premier zoom de la matinale nous emmènera à l'hôpital de Dnipro à 5h40. C'est la journée mondiale du scoutisme. On en parle à 6h moins le quart avec notre invité déjà debout. C'est aussi une journée spéciale disco sur Inter à l'occasion d'une grande expo à la Philharmonie. Alors, au saut du lit, premier pas de danse avec la playlist de Mathieu Conquet et un gros plan sur le côté obscur de cette musique émancipatrice. Et puis, vous prendrez bien un yaourt avec vos céréales ce matin dans Café Philo. Il sera question juste avant 6h de fermentation. Et c'est tout un mode de vie, vous verrez.
France Inter.
Et on démarre cette matinale avec le journal d'Anne-Sophie Balbir. Bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Emmanuel Macron veut sa place au centre du jeu européen.
Et oui, c'est lui qui a réuni des chefs de parti et de gouvernement ces derniers jours à l'Élysée sur la guerre en Ukraine et la sécurité en Europe. C'est lui qui sera à Washington lundi pour rencontrer Donald Trump en espérant une place entre les États-Unis et la Russie. C'est encore lui qui était en direct hier soir sur les réseaux sociaux, échange avec des internautes. Le président promet de mettre en garde le locataire de la Maison Blanche contre toute marque de faiblesse face à Vladimir Poutine et pour le convaincre de travailler avec les Européens. Un réveil stratégique, Marie Mollet.
Hier soir, Emmanuel Macron a voulu sonner le tocsin, comme il l'a dit lui-même.
On rentre dans une nouvelle ère. On n'est plus sûr d'avoir ce qu'on appelle les dividendes de la paix. Le risque est là. Nous, Français, on va devoir réinvestir encore plus. Et on va devoir renforcer notre défense et notre sécurité. On va devoir faire des choix, nos choix budgétaires, nos priorités nationales. C'est des choix entre le court terme et l'avenir de la nation.
Mais quel choix ? À quel sacrifice le président pense-t-il ? Hier, devant les forces politiques, il a cité un exemple, le Danemark, prêt à repousser l'âge de la retraite à 70 ans pour financer son effort de guerre. Alors hier, il l'a martelé, dans cette nouvelle époque, comme il dit, chacun peut contribuer.
On rentre dans une époque où chacun d'entre nous doit se demander ce qu'il peut faire pour la nation française et la République. Et au fond, j'ai besoin de vous. Et donc, j'ai besoin de vous. On va peut-être lancer des produits d'épargne et faire appel, en effet, à la nation pour financer certains programmes. Moi, je ne l'exclus pas.
Mais le président le répète, il n'envisage pas d'envoyer des soldats français combattre sur la ligne de front.
Non, j'ai aucune envie de sacrifier des générations. Je n'ai pas décidé demain d'envoyer des troupes en Ukraine. Non. Et ce qu'on envisage plutôt, c'est d'envoyer des forces pour garantir la paix une fois qu'elle sera négociée et signée.
Le chef de l'État, soucieux d'embarquer l'opinion, comme le dit un ministre, car il juge le débat national déconnecté de la gravité de la situation internationale, assure l'un de ses conseillers.
Volodymyr Zelensky, lui, s'est entretenu comme prévu avec Keith Kellogg, l'envoyé spécial américain sur le conflit en Ukraine, à Kiev. Le président ukrainien a plaidé pour des relations solides entre son pays et les États-Unis en évoquant une discussion productive, notamment sur la situation sur le champ de bataille, sur la question du rapatriement à des prisonniers de guerre et sur des garanties de sécurité efficaces.
L'armée israélienne accuse le Hamas d'une violation flagrante du cessez-le-feu.
Alors que les dépouilles des 4 otages israéliens ont été remises hier, l'armée israélienne affirme qu'il n'y a pas le corps de Shiri Bibas, mais celui d'une personne totalement inconnue à la place. Quant aux 2 enfants, Ariel et Kfir Bibas, leur identité a bien été confirmée, mais d'après les autorités, ils ont été tués par leur ravisseur pendant leur captivité et non pas dans des bombardements israéliens, comme le dit le Hamas. En parallèle, Benjamin Netanyahou ordonne une opération intensive contre des centres du terrorisme en Cisjordanie après 3 explosions hier soir dans des autobus vides à Bat Yam, ville du centre d'Israël. Il n'y a pas eu de blessés. En France, va-t-on vers des premières mises en cause dans le scandale de Betarame? La garde à vue des 2 anciens surveillants de l'établissement catholique du Béarn s'achève aujourd'hui. Le parquet de Pau a relâché hier un ex-prêtre nonagénaire, mais sans rien dire des suites de la procédure judiciaire. 132 plaintes ont été recensées par le collectif des victimes pour violences physiques et sexuelles.
Et puis 220 personnes réunies devant la bibliothèque incendiée de Grenoble.
Hier soir, manifestation spontanée, forme de protestation après la nuit de mardi à mercredi quand une voiture en feu a été projetée sur la façade de ce lieu qui avait été inauguré tout récemment. Le maire Éric Piolle et plusieurs conseillers de la majorité ou de l'opposition se sont joints au rassemblement et parmi les manifestants, Cynthia et ses enfants Juliette et Martin.
C'était quand même un lieu de rencontre, un lieu de mixité et je trouve ça vraiment dommageable, à la fois pour les personnes qui y travaillent, à la fois pour les personnes qui s'investissent dans le quartier. Et donc voilà, c'est les enfants qui vont en pâtir, je trouve ça dommage.
Vous y faisiez quoi comme activité ?
L'escalade avec les enfants et la bibliothèque adulte, la bibliothèque enfant.
Et les jeux vidéo.
Ça fait 2 mois qu'elle a été inaugurée. Ah oui. Et c'est vraiment triste, c'est à côté du collège, c'est en sortant, c'est bien en fait. Des fois on y allait en sortant des cours pour récupérer un livre. Ça marchait des fois avec l'école, on allait récupérer des livres pour le travail. Puis en fait c'est dommage parce qu'on a l'habitude maintenant. Enfin, c'est devenu quasiment normal d'avoir une bibliothèque ici.
Un propos recueilli par Gérard Fourgeau d'ici Isère. L'ancien député écologiste Julien Bayou, formellement blanchi par la justice, les plaintes pour harcèlement moral et abus de faiblesse déposées par son ex-petite amie ont été classées sans suite pour absence d'infraction. Les enquêtes qui le visaient dataient de mars 2024.
4h06 sur France Inter, J-1 avant l'ouverture du Salon de l'Agriculture, porte de Versailles à Paris.
600 000 visiteurs attendu. Pas moins de 80 personnalités politiques, dont le président Emmanuel Macron pour l'inauguration demain. Il y a un an, le salon avait été perturbé avec des blocages. Des membres de la coordination rurale, le syndicat a d'ailleurs fait une percée lors de récentes élections professionnelles agricoles. Alors Maria Melkurdi, à quoi faut-il s'attendre cette année ?
Une ambiance plus apaisée, espère le président du Salon de l'Agriculture, également vice-président de la FNSEA. Mais les bonnets jaunes de la CR, même s'ils ont réussi à bousculer l'hégémonie du syndicat majoritaire et de son allié des JA, n'ont pas forcément tourné la page de la contestation.
Mais en fait, rien n'a avancé depuis une année sur les dossiers. Hein.
Christian Convert, secrétaire général de la coordination rurale.
Bon, il y a une loi d'orientation qui a été avancée un peu, mais rien, absolument rien en termes de perspective pour les agriculteurs, d'amélioration de leur situation, tant en termes de revenus que par rapport à l'ensemble de ces normes qui étouffent complètement l'agriculture et bien d'autres secteurs.
Il n'appelle pas à la mobilisation sur le salon, mais les agriculteurs sont toujours en colère, selon lui.
S'ils voient certains hommes politiques, ça va dégénérer, c'est sûr. Vous prenez qu'il n'y a pas besoin de grand-chose pour que ça les excite à nouveau, quoi.
Ça dépendra notamment de l'attitude et du discours présidentiel vis-à-vis des paysans, estime José Pérez, co-président de la coordination rurale du Lot-et-Garonne.
Bien évidemment que si on se fout de nous, bien évidemment que si on nous nargue, bien évidemment que si on n'est pas du tout écouté, pas entendu, mais peut-être oui, qu'on fera des blocages ou autre, mais c'est pas du tout le but.
Le but étant d'obtenir un véritable rendez-vous d'échange avec Emmanuel Macron et d'être reconnu comme interlocuteur incontournable.
La taxe Zucman adoptée à l'Assemblée nationale, proposition de loi écologiste qui instaure un impôt plancher de 2% sur le patrimoine des ultra-riches, ceux dont la valeur du patrimoine dépasse les 100 millions d'euros. Le Rassemblement national s'est abstenu, 116 députés ont voté pour, 39 contre. Et puis c'est dur, plus dur que tout, sachant ce qu'il représente pour notre équipe, mais encore plus pour ce qu'il représente pour le basket et son amour du jeu. Grosse déception du joueur Chris Paul chez les Spurs de San Antonio, coéquipier de Victor Wembanyama, la star française, qui pourrait ne plus jouer de match jusqu'à la fin de la saison régulière de NBA le 13 avril, victime d'une thrombose veineuse profonde à l'épaule droite.
C'était le journal d'Anne-Sophie Balbier, il est 5h08 sur France Inter.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta, gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents, en pharmacie et parapharmacie.
Plus doux et humide aujourd'hui, Olivier Proust.
Après une nuit très douce, les températures sont partout positives en plaine ce matin, comprises entre 2 degrés en Alsace et déjà 13 sur la côte basque. Le vent s'oriente au sud et se renforce partout à l'avant d'une perturbation active qui aborde en matinée la pointe bretonne avec des rafales à 60-80 km/h. Ces rafales faibliront légèrement sous de bonnes pluies cet après-midi. En Méditerranée et en vallée du Rhône, également bien ventées, les entrées maritimes restent compactes, généralisées avec des pluies en Languedoc. Ailleurs, temps sec, venté et ciel voilé, parfois nettement dans le nord. Mais dans l'est, il faudra attendre la dissipation de quelques grisailles présentes ce matin. Et cet après-midi sera de nouveau très douce, avec partout 14 à 21 degrés. Il fera 14 à Brest, Lille ou Strasbourg, 14 également à Toulouse, où le vent d'OTAN va souffler fort toute la journée. Il fera 16 à 17 degrés à Paris, Clermont, Besançon ou Marseille, et on dépassera encore parfois les 20 degrés en Aquitaine.
Olivier Proust de Météo France.
France Inter. Marion Lourd.
Le 5-6.
À suivre sur France Inter. Dans une poignée de secondes, un ancien directeur d'aquarium nous raconte l'incroyable vie sous-marine dans les chroniques littorales. De la mer à la neige et ses flocons, le flocon symbole de la génération Z. On vous explique dans la chronique d'où ça sort. Et puis il y aura l'humour de Mélodie Fontaine. Elle nous dira s'il faut séparer l'homme de l'artiste. Il est 5h25 et avant tout ça, musique. C'est le chanteur Hervé et ce titre, Moins Une.
Le ventilo tourne en rond pendant que je brasse de l'air, le même qu'hier, putain. Je ferme les yeux pour voir la mer. Je ferme les yeux pour voir la mer. Elle défile sur le bandeau. L'info paramilitaire, est-ce qu'ils auront ma peau? Je commence à croire que j'ai peur. Je commence à croire que j'espère. Parfois y'a comme des échos, des destins paratonnerres, en manque d'avis pour l'ego. Est-ce qu'on notera qui m'enterre? Est-ce qu'on notera qui m'enterre? À quoi bon chercher les mots? Si les sirènes chantent l'histoire, à chercher qui abonde? Si l'horizon pue l'horreur, ça retournera son pullover.
Extrait de son album Adrénaline et en concert à partir du mois de juin en France. 5h13 sur France Inter, l'heure des chroniques littorales. Bonjour José-Emmanuel Lamarque.
Bonjour Marion Lourd.
Les chroniques littorales du vendredi consacrées à des portraits de gens de mer. Et ce matin, José-Emmanuel, c'est un océanographe à la retraite active.
En la personne de Michel Ignette, Marion. Michel Ignette, bonjour.
Bonjour.
Michel Ignette, vous êtes océanographe, biologiste marin. Vous avez été le directeur adjoint de l'aquarium de Monaco et directeur de l'aquarium de Paris, Porte Dorée. Aujourd'hui, à la retraite, vous avez décidé de continuer à enseigner la science et l'océan auprès du grand public en Bretagne pour l'association Armor Science.
Oui, tout à fait. C'est effectivement une retraite très active. J'ai beaucoup reçu, j'ai eu une chance inouïe dans la vie, donc maintenant, il faut peut-être un peu donner en retour. Et donc, cette opportunité d'avoir à l'endroit où je suis, à Pleumeur-Baudou, une association de diffusion de la culture scientifique, qui tournait très bien, mais qui n'était pas du tout orienté maritime. Mais effectivement, les collègues, quand je suis arrivé, m'ont demandé de maritimiser cette association en disant, on a une côte qui est absolument fabuleuse, et donc profitons-en.
Mais vous faites découvrir, vous, le plancton.
Alors, notamment le plancton, ça me semble quelque chose de très important.
Mais on voit le plancton?
Oui, alors on peut le voir grâce à des outils, à loupe binoculaire ou microscope. La définition du plancton, c'est ce qui est entraîné par le courant et qui ne peut pas lutter contre le courant. Donc, on peut avoir des organismes comme des méduses qui peuvent arriver jusqu'à 2 2 mètres de diamètre. Donc on a d'abord le phytoplancton, donc ces petites micro-algues très très abondantes et qui se reproduisent à une vitesse extraordinaire. Cette production est consommée par le zooplancton, très majoritairement des copépodes, qui sont des petits cétacés. C'est les animaux qui sont les plus abondants sur Terre, qui vont servir de nourriture à un certain nombre d'animaux, dont des poissons filtreurs, qui sont comme les sardines, les anchois, des poissons qui ont un système qui leur permet de faire quasiment un filet à plancton. Quand on voit une sardine vivante qui nage, elle nage gueule grande ouverte, et c'est énorme la bouche d'une sardine par rapport à la taille d'une sardine. Donc l'eau s'engouffre dans la bouche, va irriguer les branchies, ressortir par les opercules, mais au passage, les particules sont filtrées par ces peignes qu'on appelle des branchiospines et vont servir de nourriture.
Et grâce à vous, le public découvre le plancton et la vie des océans.
Alors effectivement, on a cette chance de pouvoir montrer le plancton. On a en Bretagne, et notamment dans le Trégor, tout un tas d'événements, les fêtes de la mer, et puis de manière un peu plus organisée, la fête de la science, notamment, où on est invité pour présenter du plancton. Donc j'ai la chance d'avoir un endroit assez privilégié à l'Andrélec où je peux aller pêcher du plancton assez facilement et présenter ce plancton vivant. On renvoie ça sur des écrans pour que ce soit visible par tout le monde. On peut communiquer avec plusieurs personnes simultanément.
Sur le site internet, on retrouve tout ça.
Oui, alors on a un site internet qui permet de savoir quelles sont nos activités majeures, c'est-à-dire des conférences, des expositions, et puis ce que j'appelle des ateliers, notamment j'ai parlé du plancton, et on est très très présent également en milieu scolaire, et de plus en plus, et ça c'est une bonne chose, quand on voit comment les scolaires et de tous âges finalement sont captivés par le plancton, évidemment c'est l'attrait du vivant. Je l'ai vécu dans ma carrière professionnelle aquarium, où effectivement l'émotion suscitée par le vivant permet de faire passer un certain nombre de messages qui sont difficiles à faire passer autrement. Et donc là, on a du vivant, j'allais dire, facile, transportable, et on a le même attrait, on peut captiver le public et faire passer un certain nombre de messages. Moi, je me suis rendu compte, quand je fais ces présentations, puisque je réponds aux questions en réalité, que j'ai au moins un tiers du temps qui est consacré finalement au changement climatique. C'est pas moi qui en parle, mais c'est les questions suscitées par les gens en face de moi qui font aborder ce sujet, qui est évidemment un sujet de société majeur.
Merci à vous, Michel Ignette. On va retrouver le plancton et toute l'histoire de l'océan sur le site internet de Armor Science, science au singulier.org. Bonne journée, Marion Lourd.
Bonne journée, José-Manuel Lamarque. Il est 5h17.
Le 5-6 sur France Inter.
Les unes de la presse ce matin nous emmènent pour beaucoup en Allemagne, où se tiennent ce week-end les élections fédérales. L'Europe attend l'Allemagne au tournant, avertit Libération. Le social-démocrate Olaf Scholz devrait, dit Libé, céder sa place de chancelier au conservateur Friedrich Merz après une campagne dominée par les thèmes d'extrême droite de l'AFD. La Croix aussi joue le suspense avec une photo de débat sur plateau télé et ce titre de une, les Allemands à l'heure du choix. La formation du gouvernement s'annonce complexe, note le journal. Déboussolée, l'Allemagne se rend aux urnes, note les Échos. Même type de métaphore en une de l'Opinion. L'Allemagne cherche un cap. On reparlera des enjeux de cette campagne cruciale pour l'avenir du pays et pour l'Europe tout entière tout au long de cette matinale. Première page allemande dans le 6-9 à 7h15 et plateau spécial depuis Berlin à 8h20. Les retraites et leurs déficits qui se creusent se taillent la part du lion aussi dans vos journaux. L'Opinion parle d'un audit implacable de la Cour des comptes fait hier et l'édito du journal estime que sur l'abrogation de la réforme sur le report à 64 ans, c'est la fin d'un grand mensonge. Les Échos s'inquiètent, eux, d'un état des lieux alarmant dressé par la Cour des comptes. L'est-il vraiment ou pas? Ça sera une des questions du débat Écho à 8h moins le quart sur France Inter. Et puis il y a des grands, des très grands en une de Libération et de l'Équipe. Libération et une grande photo de Souleymane Cissé, éclaireur du cinéma africain. Le cinéaste vient de nous quitter. Il apparaît là, allongé, en noir et blanc, devant la mer, un doigt pointé vers le lointain. Et un autre très grand qui nous quitte, mais là provisoirement, coup dur quand même, c'est Victor Wembanyama, maillot noir et tête baissée en une du journal L'Équipe. Victime d'une thrombose veineuse à l'épaule droite, le joueur doit mettre fin à sa saison régulière à San Antonio. Le titre de L'Équipe claque. Coup d'arrêt. À 5h18, comme tous les matins à cet horaire, c'est un concept expliqué par Cyril Lacarrière. Aujourd'hui, la génération Z, génération fragile, on lui a donné le surnom de génération Snowflake, flocon de neige.
Trop sensible aux critiques, trop facilement offensé, trop revendicatif, trop autocentré, ainsi seraient les jeunes d'aujourd'hui, cette fameuse génération Z. Des jeunes qu'on a englobés dans une notion un peu fourre-tout, la génération Snowflake, la génération Flocon de Neige, une génération de fragiles. Une génération égocentrée et à l'individualisme exacerbé qui se cacherait derrière des grands principes de solidarité. C'est dans les années 2010 que cette notion de génération Snowflake a été popularisée, notamment grâce à une femme politique anglaise, Claire Fox, qui a écrit le livre « I find that offensive ». Je trouve ça offensant, une phrase qu'elle accuse la Gen Z de prononcer à tout bout de champ. Vous serez ravis d'apprendre que cette Claire Fox est une membre de la Chambre des Lords britannique et qu'elle a défendu le Brexit. Et c'est peu dire qu'elle ne porte pas la jeune génération dans son cœur. Elle estime qu'elle a l'épiderme mince et qu'elle refuse le dialogue. Bref, oui encore, qu'elle est fragile, la faute à des parents et à un système éducatif qui enfermerait les enfants dans les cocons.
Mais Cyril, bien avant cette Claire Fox, cette idée de flocon de neige, elle est apparue ailleurs.
Oui, et ça m'a surpris en le découvrant. Je vais vous passer un extrait de film « Tendez bien l'oreille ». Un court passage du film Fight Club où le personnage interprété par Brad Pitt dit à ses disciples qui s'échinent au travail, je le cite, « Tu n'es pas spécial, tu n'es pas un flocon de neige splendide et unique, tu es fait de la même matière organique et pourrissante que chacun d'entre nous, on se l'en Tu n'es pas un flocon de neige unique. Une phrase qui était déjà dans le roman de Chuck Palahniuk, sorti en 1996. Le romancier qui s'est défendu de l'avoir imaginé comme une insulte. Mais pourtant, cette notion en est bien devenue une au fil du temps. Peut-être à tort, peut-être qu'on se trompe.
Et réponse dans le replay de Zoom Zoom Zen à réécouter sur le site de France Inter. C'était Cyril Lacarrière dans l'émission de Mathieu Noël. Tous deux reviennent à 16h cet après-midi. Il sera question notamment de la débureaucratisation, concept largement importé des États-Unis où elle est portée par Elon Musk. 5h21 sur Inter. Dans un instant, l'humour de Mélodie Fontaine. Mais tout de suite, et parce qu'aujourd'hui c'est journée disco sur France Inter, une reine du disco, Anita Ward, elle chante Ring My Belle.
Baby.
C'était Ring My Bell d'Anita Ward. Journée disco sur France Inter, je vous le disais, ça sera aussi dans la playlist, dans Musicaline à 7h20 et dans l'habillage de la chaîne France Inter et partenaire de l'exposition Disco I'm Coming Out à la Philharmonie de Paris jusqu'au 17 août prochain.
France Inter.
Et à 5h25, nous avons rendez-vous avec Mélodie Fontaine. Cette semaine, dans le 7-10, elle remplaçait Charline Vanhoenacker pour nous faire partager sa drôle d'humeur. Et mercredi, elle s'intéressait à cette grande question. Faut-il séparer l'homme de l'artiste ?
Allez, je prends mon courage à deux mains. Oh là, non, une main suffira, va. Il est très léger. Non, je me demandais, faut-il séparer l'homme de l'artiste ? Oh si, allez. Allez, je trouve qu'on déterre pas encore assez de vieux sujets déprimants. On s'en rajoute un, allez ! On déterre. Attendez, pour déterrer, je prends ma pelle. Ah, tiens, ma pelle a touché quelque chose, c'est quoi ? Oh non, ça c'est Jean-Marie, attends, juste à côté. Ah, ma foi en l'humanité, elle était là ! Oh, si je force, ça va passer, comme dirait mon prof à Bétarame. Non, mais en ce moment, ça me turlupine. Au-delà de séparer l'homme de l'artiste, bon, ça ok, on a saisi, mais faut-il séparer l'homme de l'œuvre ? C'est vrai, hein, Quentin, Polanski, Depardieu, ouais, rien qu'en les prononçant, ça fout mal à l'aise un peu, hein. Si on tend un petit peu l'oreille, oui, hein, on peut entendre deux, trois anus se contracter. Bon, en même temps, l'anus de Depardieu doit bien faire la taille d'une pizza 4 fromages, alors quand il se contracte, pas forcément obligé d'avoir l'oreille absolue, on est d'accord. Hein, en parlant d'appel d'air, le vent nous partera. Mais c'est magnifique, hein, mais c'est compliqué de le passer en soirée, on est d'accord. Rosemary's Baby, fan, mais qui sait ce qui s'est passé avec Rosemary's, hein ? Et Depardieu, entre nous, je suis fan des Anges Gardiens de Poiret. Bah, dur de regarder ça sans parfois plisser des yeux. Hein, c'est pas du Shakespeare, mais qu'est-ce que c'est marrant, on est d'accord. Il est où votre agenda avec la grosse tête de Sainte Vierge, hein ? Shakespeare, tiens, même lui, ce serait une arnaque. Et J.K. Rowling, l'auteur d'Harry Potter, qui aime pas qu'un cornichon devienne une figue. Par cornichon et figue, j'entendais pénis et vagin. Oui. Mais je trouvais que c'était plus classe.
C'était subtil.
Hein ? Expectano zizoul ! Bon, la cancel culture, de toute manière, c'est à géométrie variable. Regardez, prenez Patrick de la Comta. Il vous plotte les miches au pot de Noël, ok, mais ses projections chiffrées en N+3 sont super carrées. Votre voisin est abonné à Valeurs Actuelles, mais il s'occupe de votre ficus pendant les vacances. Votre charcutier s'accoupe régulièrement avec son carlin, mais son boudin fond en bouche. Hein. C'est triste, mais on ne peut pas cautionner et consommer. Imaginez Jean-Sylvain, mon épicier. Gentil, prévenant, excellent poireau. Le légume, hein, Simon ? Bon. Depuis lundi, il salue en levant le bras un peu trop haut. Bon, ok, mal à l'épaule, Jean-Jean. Et puis jeudi, il juge les politiques d'extrême droite un peu molles. Et puis un samedi, t'arrives et il a accroché un drapeau allemand. Pas le jaune, rouge, noir, hein, l'autre. Hein. Bon, bah là, t'arrêtes de prendre ton poireau chez Jean-Sylvain. Impossible de séparer l'homme du poireau. Je me dis qu'on pourrait presque transposer ça aux outils numériques contrôlés par des multinationales à la direction peu fréquentable. Vous voyez où je veux en venir ou pas ? Pourquoi pas faire pareil avec les géants de la tech. Allez, venez, on fait pareil. Insta, WhatsApp, X, Spotify, Amazon. Est-ce que c'est normal d'utiliser un service s'il soutient et finance un régime despotique de teuteux botoxés, proto-fascistes au charisme de Poiranal, hein ? Faut-il séparer l'homme de l'appli ? Alors, oui, mais enfin, dans ces cas-là, on fait plus rien. Arrêtez de prendre le métro parce que le PDG, c'est Jean Castex. Déscolariser ma fille parce que c'est Elisabeth Borne. Arrêtez de donner à Emmaüs. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Non, évidemment que non, mais je vous le dis maintenant, mon poireau a meilleur goût.
France Inter. C'était Mélodie Fontaine et sa drôle d'humeur. À suivre, le journal sur France Inter.
France Inter présente
le podcast Ma différence à moi.
Julia Foyce.
Ils s'appellent Stan, Max, Ali, Agathe et Abigail. Ils sont atteints de troubles psychiatriques ou de handicaps psychiques. Mais comment vivent-ils ? Que se passe-t-il dans leur tête ? Quels sont leurs rêves, leurs peurs, leurs envies ? Pendant 5 épisodes, nous allons regarder avec leurs yeux, écouter avec leurs oreilles, vivre leur vie pour comprendre ce que « hors norme » veut dire.
Ma différence à moi.
À télécharger sur l'appli Radio France.
Bon réveil à l'écoute de France Inter. Il est 5h29, bientôt 5h30. C'est l'heure du journal. Et bonjour Anne-Sophie Belbir.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
La trêve entre le Hamas et Israël, particulièrement fragile ces dernières heures.
Depuis qu'ont été remises les dépouilles de 4 otages par le mouvement islamiste, il s'agit d'informations de l'armée israélienne. L'un des corps est celui d'une personne inconnue. Il ne s'agit pas de Shiri Bibas, comme ça avait été annoncé. En revanche, l'identité de ces deux jeunes enfants, Ariel et Kfir Bibas, a été confirmée. Ils ont été tués par leurs ravisseurs pendant leur captivité, non pas dans des bombardements israéliens, comme le dit le Hamas. C'est en tout cas ce qu'affirme encore une fois l'armée israélienne qui dénonce une violation flagrante du cessez-le-feu. Emmanuel Macron veut sa place au centre du jeu européen. Pour lui, on entre dans une nouvelle ère face à la menace que représente la Russie. Le président était en direct sur les réseaux sociaux hier soir, séance de questions-réponses avec les internautes. Après 3 ans de guerre en Ukraine, il estime que la France va devoir augmenter la part du budget consacré à la défense. Sur sa visite à Washington lundi, Emmanuel Macron promet qu'il mettra en garde Donald Trump contre toute marque de faiblesse face à Vladimir Poutine.
Des nouvelles du pape François, hospitalisé depuis une semaine pour une infection sévère des bronches et une double pneumonie.
Le dernier bulletin de santé fait état d'une légère amélioration de ses conditions cliniques. Hier, à la salle de presse du Vatican, 2 cardinaux qui comptent, Mgr Aveline, archevêque de Marseille, et Mgr Omella, archevêque de Barcelone, intervenaient sur un tout autre sujet, mais ils ont répondu sans tabou aux questions posées par la maladie de François. Bruno Duvic.
Ce sont 2 cardinaux nommés par François et proches de lui, Mgr Aveline.
Je suis inquiet comme pour mon père. Après, il y a des inquiétudes pour la vie de l'Église, mais ça, c'est autre chose.
Tout est entre les mains de Dieu pour Mgr Omelia.
On ne peut pas prévoir le lendemain, hein, même pas une minute après. On ne sait jamais.
Une démission du pape, s'il survit à sa pneumonie, oui, la question se pose.
Lui-même est suffisamment lucide aussi pour pouvoir dire, bon là vraiment je ne peux plus, ou bien j'ai l'impression que je peux, mais c'est peut-être pas bon pour l'Église.
Qu'il prenne la décision qu'il croit en conscience qu'il doit prendre. Avec un pape ou un autre, l'Église continue à faire le chemin. Hein.
Et oui, forcément, quelle que soit l'affection des 2 cardinaux pour François, la question du conclave aussi est posée.
Du plus loin possible, je demande dans ma prière que le Seigneur nous le conserve. Cela dit, le fait de prier comme ça signifie que c'est une question qui se pose aussi, bien sûr.
Évidemment, de temps en temps, ça vient. Et si un conclave est convoqué, ben, on le fera. Mais ça ne m'enlève pas le sommeil. Non. Si ça arrive, on verra.
L'Église est un train qui avance depuis 2000 ans, conclut l'archevêque de Barcelone. Rome, Bruno Duvic, France Inter.
Dans l'affaire Betarame en France, l'enquête sur les violences physiques et sexuelles se poursuit. 132 plaintes ont été recensées. La garde à vue de 2 anciens surveillants de l'établissement catholique doit se terminer aujourd'hui.
Dénouer la crise en Nouvelle-Calédonie, objectif du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, en vol pour Nouméa.
Il atterrira ce soir à 22h heure de Paris et a prévu de rester 8 jours sur place pour tenter de trouver un accord entre loyalistes et indépendantistes. 9 mois après les violentes émeutes, Maxence Lambrecq, le ministre, risque d'être accueilli fraîchement.
Manuel Valls a peut-être déjà perdu la partie avec une seule phrase, rappelant il y a 15 jours que les accords de Nouméa dessinent une trajectoire vers une souveraineté pleine et entière, ce qui a fait hurler les opposants à l'indépendance réunis cette semaine à Nouméa.
Manuel, tu vas venir et tu vas expliquer un truc de très simple à la population calédonienne. Non, c'est non. Non, c'est non.
Le député Nicolas Metzdorf rappelle les 3 victoires du non à l'indépendance. Il se méfie d'un Manuel Valls trop conciliant, prêt à tout pour avoir les indépendantistes à sa table.
Je pense que les positions sont conciliables.
Interviewé hier par Calédonie la Première.
Il y a les bases d'un accord, même si évidemment les aspirations elles peuvent paraître contradictoires. Et mon rôle c'est de pouvoir avancer sans naïveté mais avec une certaine fermeté parce qu'on joue l'avenir de la Calédonie et de sa paix, tout simplement, la paix civile.
Au sein même du gouvernement, on ne cache pas son inquiétude. On est en train de perdre la Nouvelle-Calédonie, dit un ministre. Au-delà du processus politique, les Calédoniens attendent de Manuel Valls des engagements financiers, notamment pour payer le chômage partiel massif depuis les émeutes.
Plus de 37 000 personnes encore privées d'eau potable en Guadeloupe, soit 10% de la population, en cause des actes de malveillance commis sur le réseau dans la nuit de mardi à mercredi. Une enquête a été ouverte pour vol de matériel sur un site de pompage. Et puis les fans de football trépignent pour le meilleur ou pour le pire. À partir de midi, on connaîtra les adversaires du PSG et de Lille en huitième de finale de la Ligue des Champions. Liverpool ou Barcelone pour le club parisien, Dortmund ou Bruges pour le LOSC.
Merci Anne-Sophie Belbier. On parlera foot tout à l'heure aussi à 6h20, foot féminin, avec un documentaire consacré au bleu, BLEUES. C'était donc votre journal. Bonne journée à vous Anne-Sophie.
Merci.
Journée sous un temps à nouveau perturbé, mais dans une grande douceur. Le ciel est souvent nuageux et voilé. Quelques bandes brouillard et nuages bas ce matin du Val-de-Saône à l'Alsace-Lorraine. Les nouvelles pluies arrivent en matinée par la Bretagne et ce temps humide s'installe à la mi-journée, accompagné d'un vent de sud jusqu'à 80 km/h en rafale. Sur les régions méditerranéennes, des pluies également sur le Languedoc-Roussillon et le relief Cévenol. Des éclaircies sont attendues en Provence-Alpes-Côte d'Azur. La Corse est coupée en deux dans le sens de la hauteur. Soleil à l'ouest, nuages et averses à l'est. Le vent d'autant souffle fort avec des rafales jusqu'à 90 km/h sur le Lauragais. Vent du sud soutenu aussi sur les Pyrénées et des températures élevées. 1 à 14 ce matin. 13 à 23 cet après-midi, 14 à Brest, Toulouse et Nancy, 15 à Paris, Rennes et Lyon, 16 à Tours, Marseille et Perpignan, 17 à Clermont-Ferrand, 18 à Ajaccio, 19 à Bordeaux et 21 à Biarritz.
Le 5-6 sur France Inter.
Et c'est l'heure de danser avec la playlist de Mathieu Conquet. Bonjour Mathieu.
Bonjour Marion.
Depuis vendredi dernier, une grande exposition disco a ouvert ses portes à la Philharmonie de Paris. France Inter est partenaire et pour l'occasion, la radio est donc disco toute la journée sur France Inter, que ce soit dans Grand Bien vous fasse, dans Musicaline, dans Affaires Sensibles. Et ça commence avec vous, Mathieu.
Et oui, alors plus que de boule à facettes, j'aimerais vous parler du versant noir du disco. Vous avez mis vos chaussures à plateforme ?
Bien sûr, comme tous les jours.
Allez, ceux qui ont vu La Fièvre du samedi soir se rappellent forcément de sa bande-son. Hein, il n'y avait pas que les Bee Gees. Vous écoutez la Disco Inferno, le tube des Tramps, ce groupe de Philadelphie, des Noirs américains. Et il n'y a eu que des titres géniaux chez eux. Ça pourrait presque résumer le disco. Disco Party, Love Epidemics ou encore That's Where Happy People Go. C'est là que les gens heureux vont, ou cela, au disco, en club, bien sûr.
Bien sûr.
Vous pourrez vous plonger dans cette ambiance de libération sexuelle, de lutte pour les minorités à travers les photos, le catalogue de l'exposition Disco I'm Coming Out. Vous y verrez défiler les divas du disco, Gloria Gaynor, Diana Ross, Donna Summer, entre autres. Et puis aussi ces arrangements, ses producteurs comme Neil Rogers, Giorgio Moroder, mais aussi ses grands orchestres comme le Salsoul Orchestra.
Salsoul Orchestra, c'est extrait de l'album Magic Journey en 1977.
Et vous imaginez, ça c'était seulement la phase B.
Ah ouais.
Alors si la date de naissance du disco est difficile à décider, le point d'origine est probablement à Philadelphie, chez ceux qui à l'époque rêvent de concurrencer le label Motown, Kenny Gamble et Leon Huff, deux noirs américains qui vont écrire, produire, arranger un mélange de soul, de funk, de percussions latines avec l'aide de musiciens exceptionnels, dont le batteur Earl Young, qui va créer cette rythmique irrésistible, hein, le four on floor avec le Charleston ouvert et puis le pied de grosse caisse qui marque tous les temps. Gamble and Huff, le batteur Earl Young et l'orchestre MFSB, tous sont réunis dans le morceau qu'on va écouter. C'est un titre de Harold Melvin and the Blue Notes. Ça vous dit rien, Marion ?
Ah si.
Pourtant, bah oui, vous connaissez la chanson par cœur. C'est un énorme tube chanté par Teddy Pendergrass en 75, repris un an plus tard par Thelma Houston, des années après encore par un certain Jimmy Somerville. We'll be right back.
Voilà pour s'ambiancer un peu sur cette journée disco géniale. C'est terrible pour commencer la journée. Qui commence donc sur France Inter, on va entendre du disco un peu partout à l'antenne aujourd'hui et jusqu'à ce soir avec vous Mathieu.
Oui, avec un reportage en plongée dans l'exposition de la Philharmonie avec Jean-Yves Leloup, le commissaire. Et puis je recevrai deux DJ au cœur de cette histoire, Guy Cuevas, le DJ du Palace, et Dimitri From Paris qui lui a mixé la bande-son pour l'expo. Et puis vous danserez jusqu'à 22h puisque Laurent Goumard recevra notamment Céron et Didier Marouani de Space.
Et on dansera même un peu plus tard, c'est promis, ce sera... Et je remets le disco alors.
C'est tout à fait ça, à ce soir 21h.
À ce soir. 5h41 sur France Inter. Zoom sur 3 ans de conflit en Ukraine ce matin sur France Inter. Lundi, ça fera donc 3 ans que la Russie a envahi une partie du pays alors que Russes et Américains discutent, que la France met en garde Donald Trump contre toute faiblesse face à Poutine. Sur le terrain, les combats continuent. Bonjour Claude Guibal.
Bonjour.
Avec votre équipe, Yachar Fazilov et Alexandra Bergel, vous vous êtes rendu à l'hôpital Metchnikov de Dnipro. 50 à 100 soldats grièvement blessés y arrivent chaque jour du front. 2500 employés s'occupent d'eux, dont 500 médecins. Des salles d'opération qui tournent jour et nuit depuis le début du conflit. C'est la guerre en blouse blanche.
Le feutre court sur la peau, penché sur un brancard. Un infirmier écrit des chiffres sur le bras de l'homme qui vient d'arriver dans le hall des urgences de l'hôpital Metchnikov. 40 224, le nombre de blessés de guerre soignés ici depuis le début du conflit. 3 ans que Sergueï Rychenko, le directeur, dort dans son hôpital.
Il faut montrer l'exemple. On n'ira nulle part tant qu'on n'aura pas reçu, opéré et soigné chacun de nos soldats.
Chaque nuit, une vague de blessés déferle, une apocalypse silencieuse où chacun sait ce qu'il a à faire. Alexander Touloubaïev, directeur adjoint de l'hôpital.
Dans ces situations, pas de place pour les émotions.
Parfois, parmi les blessés, un prisonnier russe.
On n'oublie pas qu'on est médecin et qu'on doit les secourir. Et on comprend aussi qu'en sauvant leur vie, ils pourront servir de monnaie d'échange contre nos gars capturés.
Sur un fauteuil roulant, une silhouette entièrement recouverte de bandelettes, plus d'yeux, plus de bouche, seul un espace sous les narines pour respirer. L'homme arrive du front de Pokrovsk.
Vous savez, ce qui reste dans la tête, c'est l'odeur de la guerre. La guerre, ça a son odeur. Le sang, la crasse, le brûlé. Cette odeur, ça ressemble à rien d'autre. Mais on n'y fait même plus attention. En fait, la guerre, ça ne sent pas, ça pue.
Et tous les médecins, Claude, ne peuvent pas tenir le coup.
Oui, alors ici, on mise tout sur les jeunes, hein, plus résistants. Une formation accélérée dans des conditions vertigineuses, 6, 8 opérations par jour. Au début de la guerre, Bogdan Sirko, neurochirurgien, a cru qu'il n'y arriverait jamais.
À 6 heures du mat, après avoir opéré toute la nuit sans dormir, je me souviens m'être dit, on ne va jamais tenir. Et en fait, on a tenu.
En octobre, un missile a explosé tout près de l'hôpital. Les vitres ont été soufflées. Bogdan, en tenue stérile, était en salle d'opération. L'onde de choc l'a projeté au sol.
Après ça, j'ai ouvert les yeux. J'ai pensé, c'est sûr, soit je suis gravement blessé, soit je suis mort. J'ai regardé, mes bras étaient intacts, mes jambes, mon ventre, mon cou, pas d'hémorragie. Je me suis approché de l'anesthésiste, je lui ai dit, faut s'y remettre. J'ai compris que la responsabilité sur l'équipe, c'est le chirurgien.
Bogdan aimerait lire, mais il n'en a plus le temps. Pour déstresser, pas d'alcool, du sport le matin. Et parfois, il plonge dans le Dniepr, il nage pour oublier dans les eaux froides du fleuve.
Il y a tellement d'horreurs que j'ai pas envie de raconter. Voir toutes les atrocités qu'on peut faire subir à un être humain sans devenir fou. C'est l'horreur des choses qu'on ne pourrait jamais imaginer dans une vie. Et ça vient se cumuler en toi.
Bogdan Sirko, neurochirurgien, n'a que 26 ans. Et Sergueï Rijenko, lui, ne sait plus comment le dire.
La guerre, c'est la pire chose qui soit sur Terre. Tout ce qu'il y a de plus terrifiant au monde, on l'a vu ici. Il faut le dire pour qu'en Europe ou ailleurs dans le monde, la guerre n'arrive plus.
Le directeur de l'hôpital sort son portable. Il veut faire écouter ce qui, aujourd'hui, a permis au personnel de l'hôpital de ne pas craquer. Le message laissé par un enfant à son père, amputé des trois membres, gisant dans un lit là-bas, dans une chambre au fond du couloir. Papa, je t'aime très fort, tu me manques tellement. Guéris vite, pour qu'on soit toujours ensemble.
3 ans de guerre en Ukraine, un reportage Zoom de Claude Guibal avec Yachar Fazilov et Alexandre Abergel à retrouver dès maintenant sur l'application Radio France.
France Inter. Marion Lourd. Le 5-6.
À 5h45, c'est l'heure de retrouver notre invité déjà debout. Bonjour Camille Dagobert.
Bonjour Marion, merci de m'accueillir.
Avec plaisir, vous êtes bénévole au Scout et Guide de France et vous êtes avec nous ce matin parce que c'est la journée mondiale du scoutisme, samedi, demain. Pourquoi est-ce que vous êtes déjà debout Camille Dagobert à cette heure-ci ?
Eh bien, je suis déjà debout pour parler avec vous de ce que c'est les scouts.
Et alors, qu'est-ce que c'est les scouts ?
Alors moi je fais partie de l'association des Scouts et Guides de France, qui est une association donc catholique, ouverte à tous et d'éducation populaire. C'est une association qui est issue de la fusion entre les Scouts de France et les Guides de France, ça fait maintenant 21 ans.
Alors, il va se passer quelque chose de spécial demain, samedi, avec les Scouts et Guides de France, ou c'est simplement une journée de sensibilisation, une journée de découverte, mais vous n'avez pas prévu d'événement particulier ?
Alors, ce sera le 22 février, c'est une journée de visibilité pour tous les scouts et guides de France. C'est une journée où, sur les réseaux, on invite tous les scouts et guides de France à revendiquer qu'ils sont scouts et dire que, des fois, on en a comme amis, comme famille, et qu'on est fiers de l'être.
Et tout ça se passe sur les réseaux sociaux, donc vous avez 29 ans, ça fait longtemps que vous faites du scoutisme ?
Alors moi j'ai commencé le scoutisme quand j'avais 12 ans et la promesse qu'on m'en a faite à cette époque c'était tu vas voir, tu vas faire des cabanes dans les bois, tu vas dormir sous la tente et tu vas faire du feu.
C'est vrai.
Une promesse qui aujourd'hui est toujours tenue, même 17 ans plus tard. Je fais toujours du feu et je dors toujours sous la tente.
Mais ce n'est pas que ça.
Non, ce n'est pas que ça. On mène des projets avec des gens de tous azimuts. Moi, je travaille avec une équipe qui a de 20 ans à 60 ans. Et c'est la richesse de notre association.
Alors, il y a des idées reçues, évidemment, hein, sur le scoutisme. Est-ce que vous parliez d'une association catholique en ce qui concerne les scouts et guides de France ? Est-ce que c'est forcément religieux ? Ça veut dire que je dois être catholique pour m'inscrire aux scouts et guides de France ?
Alors, chez les Scouts et Guides de France, c'est une association catholique, mais comme je le disais, ouverte à tous. Donc, vous pouvez être de n'importe quelle confession pour rejoindre l'association. Néanmoins, il y a d'autres associations avec lesquelles vous pouvez arriver avec d'autres confessions. Il y a l'association musulmane, protestante. Il y a les Éclés aussi, qui sont une association laïque.
Les éclaireurs ?
Oui, tout à fait, oui.
Et est-ce que c'est mixte, les scouts ?
Alors, ça dépend des associations, mais la nôtre est mixte, oui, et en fonction des groupes. Il y a toujours des groupes aujourd'hui qui sont non mixtes. Ça dépend de ce que vous avez envie de vivre comme scoutisme.
Et il y a des valeurs, en tout cas, qui sont communes peut-être à tous les mouvements scouts, quelle que soit la confession de chacun.
Oui.
Alors, quelles sont-elles, ces valeurs ?
La solidarité, l'ouverture à tous et l'entraide.
Et le scoutisme continue d'attirer aujourd'hui ou c'est quelque chose d'un peu désuet ?
Ah, pas du tout. Les Scouts et Guides de France, c'est une association qui vit dans l'air du temps, qui est très en lien avec les problématiques de société, notamment du réchauffement climatique et de l'isolement qu'il peut y avoir, surtout notamment depuis le Covid, où on a une grande recherche de vie dans la nature, d'abandonner les écrans pour vivre des choses qui sont simples et authentiques.
Et ça fait ces idées, ces valeurs, ça fait venir du monde, plus de monde, moins de monde qu'avant. Vous le savez, vous, puisque ça fait quand même un bon moment que vous êtes scout.
Alors, je ne peux pas vous donner d'indicateurs précis, mais je peux vous dire qu'en tout cas, sur la région du Havre, on a ouvert depuis l'année dernière deux groupes où on avait une demande sur des zones où on ne pouvait pas proposer de scoutisme.
Et vous avez dit quelque chose d'intéressant en préparant cette interview. Vous avez dit le scoutisme, c'est vivre ensemble. Ça résume bien les choses.
Oui. En fait, on est intéressé par les valeurs. Et on mène des projets autour de ces valeurs. C'est des actions qui sont concrètes. Et peu importe d'où on vient, l'âge qu'on a, le métier qu'on fait, si on a envie d'être là, qu'on est motivé et qu'on est sur quelqu'un sur qui on peut compter, eh bien, c'est parti, on se lance.
Merci Camille Dagobert d'avoir été notre invitée. Déjà debout, je rappelle que vous êtes bénévole au Scout et Guide de France et vous étiez avec nous à l'occasion de cette journée mondiale du scoutisme qui a lieu demain. 5h51, la réponse à toutes les questions des grands et surtout des petits, c'est dans les petits bateaux avec Camille Cronier et ses invités. Et aujourd'hui, Margot, tiens, comme les scouts, elle observe la nature.
Et coucou les petites curieuses et les petits curieux, direction la forêt.
Bonjour, je m'appelle Margot et j'ai 6 ans et je voudrais savoir comment on reconnaît les filles des garçons chez les arbres.
Waouh, speedy Margot, je répète au cas où ce soit allé un petit peu trop vite pour certains. Comment on reconnaît les filles des garçons chez les arbres ? Catherine Laine, expliquez-nous, vous qui êtes docteur en physiologie végétale à l'université de Clermont-Ferrand.
C'est une jolie question ça, merci Margot. Alors, les filles et les garçons, bon, donc en fait, tu me parles de sexe, parce qu'une fille et un garçon, ce qui les différencie, c'est leur sexe. Donc, est-ce qu'il y a des arbres filles et est-ce qu'il y a des arbres garçons ? Eh bien, écoute, il y a très peu d'arbres qui ne sont pas à la fois filles et garçons. Les arbres, en général, portent sur leurs branches à la fois le sexe mâle et le sexe femelle. Comment ? Eh bien, dans la même fleur. Très souvent, alors les arbres feuillus, eux, font des fleurs, et dans ces fleurs, on va rencontrer à la fois le sexe mâle et le sexe femelle. Le sexe mâle, ce sont les étamines d'une fleur.
Les étamines, c'est quoi ?
Alors, une étamine, c'est comme un petit poil qui a une tête creuse, et dans sa tête creuse, c'est là qu'est fabriqué le pollen. Le pollen, c'est des grains qui transportent en fait le sexe mâle jusqu'au sexe femelle.
Et le sexe femelle, du coup ?
Alors, le sexe femelle, c'est une sorte de petite bouteille, un peu comme une gourde creuse, et à l'intérieur de la gourde, il y a une petite graine qui va se former lorsque le pollen arrive dans ce pistil.
Et ça, donc, c'est le cas de la majorité des arbres. Voilà, ou est-ce qu'il y en a quand même des filles et des garçons,
ouais,
comme
donc,
dit Margot ?
Dans la majorité des cas, chez les feuillus, les fleurs mâles et femelles existent, ou alors les fleurs mâles sont différentes des fleurs femelles, mais sur le même arbre. Par exemple, prends un chêne, Margot, sur ce chêne, tu peux regarder des petites fleurs mâles qui sont comme une petite chaînette qui pend et qui est secouée par le vent. Et puis, sur la même branche, si tu regardes de très près, tu verras des fleurs femelles qui sont comme des mini-glands du chêne rouge. Tu peux voir les deux sur le même arbre. Donc, ton chêne, il est fille et garçon à la fois, on est d'accord. Après, est-ce qu'il y a des arbres filles et des arbres garçons ?
Ouais,
finalement,
c'est quand
même la question. Eh bien oui, ça existe, mais c'est rare. Alors, il y a des familles de plantes, d'arbres, qui font ça. Par exemple, je prends un seul exemple, le peuplier. Quand tu regardes un peuplier, parfois il est fille, parfois il est garçon. Et tu peux voir au printemps assez facilement, tu peux reconnaître les filles assez facilement au printemps, parce que les petites fleurs femelles que ces filles portent, elles vont s'ouvrir au printemps, lorsque les graines sont prêtes, et il y a une espèce de coton blanc qui va s'échapper de ces fruits et qui va s'envoler par le vent.
Ah, donc les arbres, les peupliers avec du coton blanc qui volent, ce sont les peupliers filles, ouais. Et les garçons ?
Alors les garçons, c'était un petit peu plus tôt, quelques jours avant, quelques semaines avant. Ces garçons, eux, ont produit, ont lâché dans l'air des masses de pollen, donc des nuages de poussière jaune.
Mais c'est très rare, donc vous dites peuplier.
Alors, c'est pas, le peuplier, c'est toujours, mais par contre, c'est pas courant. Hein, voilà, dans le grand monde des plantes à fleurs, il n'y en a pas beaucoup qui ont séparé les sexes, qui ont fait des pieds mâles et des pieds femelles.
En tout cas, on va regarder autrement et de très près maintenant qu'on sait tout ça. Salut les matelots.
Les petits bateaux. À retrouver quand vous voulez sur franceinter.fr et sur l'appli Radio France.
On salue Camille Crenier, vous revenez aussi ce soir à partir de 20h.
France Inter. Le 5-6.
Et c'est l'heure de prendre un café philo et pourquoi pas un yaourt. Bonjour Patricia Martin.
Bonjour Marion Lourd.
Et parce qu'au programme de votre, de notre réflexion philosophique ce matin, vous avez mis un thème un peu étrange, là ou plutôt les fermentations. Est-ce que c'est vraiment un sujet philo ?
C'est vraiment un sujet philo, cher Marion. Il s'agit de considérer notre rapport au vivant autrement. Au départ, la fermentation est une nécessité. Sans les bactéries, il n'y aurait pas de renouvellement de la vie et par voie de conséquence, pas de vie terrestre possible. Pourquoi fermenter ? C'est la question que pose le professeur en biologie Marc-André Sellos, auteur notamment d'un livre intitulé « L'origine du monde ».
Pourquoi fermenter ? Puisque dès lors qu'on fermente, on nourrit des microbes au lieu de se nourrir nous-mêmes directement des aliments. Il y a un paradoxe fermentaire. Et ce paradoxe fermentaire, c'est que quand vous mettez une ressource à disposition des microbes, ils vont fermenter, ça veut dire quoi ? Ils vont se développer, ils vont grandir. Ils vont modifier une partie de la ressource, bon, mais qui sera toujours là. Ils vont produire du microbe, qu'on pourra toujours manger, mais ils vont aussi produire des déchets. Des gaz en particulier, et toutes les odeurs qui s'échappent des aliments fermentés, tout ça, c'est de la biomasse perdue. Donc en fait, quand on fermente, on ne récupère qu'une partie de l'aliment de départ. Ça, c'est paradoxal, surtout à des époques où le problème, c'était la sécurité de l'alimentation, la sécurité quantitative de l'alimentation qui était en question. Nourrir des microbes à une époque où on n'était pas sûr de manger, c'est un peu paradoxal. Alors pourquoi fermenter ? Je vais vous dire, l'histoire de l'origine de la fermentation, c'est le fait que dans toutes les transitions alimentaires, ça se passe mal. Quand on change d'alimentation, on n'est pas fait pour la nouvelle alimentation. Et en fait, la raison de la fermentation, c'est une malbouffe qu'on a oubliée, c'est la malbouffe du néolithique, c'est que le début de l'agriculture fut chaotique. Et vous allez voir, même toxique.
La malbouffe du néolithique, on a envie de dire le fast-food préhistorique. C'est une piste des réflexions qu'on n'avait pas envisagée, Patricia.
Non, sans blague. Alors évidemment, c'est une façon de revisiter le passé avec des termes actuels, mais surtout avec les connaissances qui sont aujourd'hui les nôtres. Pasteur est depuis passé par là.
Et ça, c'est un indéniable progrès, la pasteurisation.
Vous avez raison, ma chère Marion. Et aujourd'hui encore, si une stérilisation est mal faite, vous pouvez être victime du botulisme, une maladie grave et parfois mortelle. Il n'empêche, une société aseptisée comme la nôtre court à sa perte. Et la révolution post-pasteurienne que nous vivons relève d'une véritable quête. Les produits fermentés ont la cote, vous le savez. Un seul exemple, kombucha, élixir d'immortalité en Chine dès le 3e siècle. Vous en aviez parlé, je crois, avec François-Régis Caudry. On peut penser aussi au kéfir, à certains yaourts, à la choucroute ou au levain. Oui, il existe bel et bien une éthique du fermenté.
Et ce sera le sujet de l'heure philo ce soir, avec pour invité Anne-Sophie Moreau, auteure de l'essai Fermentation, publié au Seuil, et Etienne Huyendo pour son livre Fermentation Rébellion, qui est sorti aux Équateurs, et ce sera à 20h10. À ce soir, Patricia.
À ce soir, Marion.
Ce samedi sur France Inter, Make Athènes Great Again.
Samedi 11h, Pierre Judet de Lacombe.
Aristophane, dans sa comédie Les Oiseaux, a imaginé deux Athéniens grognons, excédés par les règles et les impôts, qui quittent leur monde pour envahir et tyranniser celui des oiseaux, en contrôlant toute forme de communication entre les hommes et les dieux. Ça ne vous rappelle rien ? Transportons Donald Trump et Elon Musk dans la Grèce antique.
Quand les dieux rôdaient sur la Terre.
C'est tous les samedis à 11h sur France Inter.
5h58.
La météo avec Vita Citral TR+, des laboratoires Acepta. Gel réparateur pour les mains abîmées par le froid, les gels hydroalcooliques et les lavages fréquents. En pharmacie et parapharmacie.
Un temps plus chaud et plus humide aujourd'hui, Olivier Proust.
Le vent s'oriente au sud et se renforce. Il sera sensible partout aujourd'hui. Il souffle ce matin jusqu'à 60-80 km/h du Cotentin au Finistère, avant de baisser légèrement sous de bonnes pluies cet après-midi en Bretagne. Le vent d'Autan est également soutenu toute la journée et le vent en Méditerranée et en vallée du Rhône se renforce. Maintenant, des entrées maritimes généralisées. Elles donneront quelques pluies en Languedoc. Ailleurs, le temps sera sec sous des voiles nuageux, parfois épais dans le nord. Dans l'est, il faudra attendre la dissipation de grisailles, notamment entre le pied des Alpes et le Val de Saône. Après une nuit très douce, on relève au lever du jour 2 à 13 degrés de l'Alsace à la côte basque. Et cet après-midi, les températures seront très homogènes et très élevées, avec partout 14 à 21 degrés.
Olivier Proust de Météo France. Le 6-9 démarre dans quelques secondes au programme aujourd'hui. À 6h20, on parle filles et foot alors que nos Bleus affrontent ce soir la Norvège en Ligue des Nations. Les femmes du ballon rond se professionnalisent. On reçoit Laurie Delostal, co-réalisatrice du documentaire Devenir Bleu, le parcours des combattantes. À 7h45, comment réformer la réforme des retraites. Les partenaires sociaux ont 3 mois et nos débatteurs Éco, Thomas Porcher et Dominique Seux ont un quart d'heure pour y réfléchir. Et puis à 8h20, grand entretien spécial. À 2 jours des élections fédérales en Allemagne, on rejoindra notre envoyé spécial en Allemagne, Simon Le Baron, et tous ses invités pour nous expliquer pourquoi ces élections sont si importantes.